France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un pianiste, d'ailleurs il est en train de pianoter sur la table du studio. Un pianiste, mais pas tout à fait comme les autres qu'on reçoit ce matin. Un pianiste qui, par ses choix de carrière, par son répertoire aussi, fait des pas de côté et aussi avec ses doigts. Bonjour Ivan Illich.
Bonjour. Quelle présentation.
après Godowski revisitant Chopin, après Morton Feldman, vous poursuivez votre exploration de la musique d'Anton ou Antoine Raïcha, ce contemporain de Beethoven, né la même année, né lui à Prague et qui émigre à Paris en 1808 où il finira sa vie en 1836. C'est votre troisième volume consacré à Raïcha qui vient de paraître, d'incroyables variations sur un thème. Il y en a 57, le disque vient de paraître chez Chandos. C'est donc bien dans une intégrale que vous êtes lancé avec lui ?
Alors ça, c'est un peu l'idée. Disons que au départ, nous avons décidé de faire 5 disques minimum. L'intégrale, je crois que c'est, elle est même difficile à définir parce que l'opus est tellement énorme. Il y aurait 12 ou 13 disques. Alors je suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Ça dépend aussi comment les choses avancent. Alors pour l'instant, ça suscite de l'intérêt, mais j'ai envie de faire autre chose, évidemment, en tant que musicien. De temps en temps, je casse d'autres projets. Alors là, je suis déjà en train de préparer un autre projet musical qui n'a rien à voir, qui est plutôt impressionniste, pour caser entre les troisième et quatrième volumes. Mais tant que je prends du plaisir, je continue avec Raïcha. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesse. Ça n'a pas été fait à la hauteur de ce que j'aimerais entendre.
Donc vous n'êtes pas lassé de d'Antoine ou d'Anton Raïcha et tout est bon dans Raïcha ?
Écoutez, il y a beaucoup de très belles choses et puis beaucoup d'ambition pour ce compositeur. Je pense que la plupart des musiciens ne vont se laisser convaincre que par un beau disque d'un répertoire. Donc si on choisit d'enregistrer un répertoire méconnu, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Sinon, les gens vont écouter et se dire bah, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a beaucoup de fugues, beaucoup d'études, il y a une belle variété. Justement, pour moi, l'opus 57 est une découverte puisque ça penche plus vers le style de Haydn et Beethoven et tout ça, alors que par exemple, les études parisiennes, c'est plus de contrepoint. Donc il y a des gens qui adorent les fugues, le contrepoint, et d'autres qui n'y s'y intéressent pas du tout. Donc je pense que ceux qui aiment la brillance de l'écriture de Haydn, Mozart, Beethoven au piano, ils pourraient apprécier les 57 variations de Raïcha.
Alors jusqu'à 9h, on ne peut pas écouter les 57 variations, puisque ça dure près d'une heure et demie. On va en écouter quelques-unes, l'art de varier, opus 57. Et on va écouter le thème et les deux premières variations. Ce thème simple, qu'on va entendre dans un instant, comment vous l'entendez, Ivan Illich ?
Pour moi, c'est un thème un peu géométrique, c'est-à-dire qu'il l'a construit pour pouvoir le varier au maximum. Pour moi, c'est un thème assez mathématique, c'est pas forcément un thème qu'on retient, mais c'est un thème aussi carré qui lui permet d'aller dans toutes les directions, d'aller à la fois vers le passé, vers tout ce qui est Handel, Bach, il y a des variations qui font penser vraiment à ces compositeurs, autant que vers l'avenir, vers Liszt, Alcan, Franck, etc.
Thank you.
Reicha Rediscovered, Reicha Redécouvert, c'est le troisième volume chez Chandos avec Ivan Illich, notre invité ce matin, l'art de varier d'Anton Reicha. On a écouté le thème, les deux premières variations. L'art de varier, c'est son titre à lui.
Oui, tout à fait. Comme il était francophone et francophile depuis son enfance, je crois qu'il avait une belle-mère alsacienne qui lui a enseigné le français dès son enfance, donc il a toujours été tiré vers la France.
Mais composé avant qu'il arrive à Paris.
Oui, bien ouais. Avant, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'avec lui, la chronologie est toujours difficile puisqu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a commencé à composer certaines œuvres. Mais là, c'était à Vienne, c'était au moment justement où il déjeunait de temps en temps avec Beethoven, où il fréquentait Haydn aussi. Enfin, il était vraiment parmi les compositeurs les plus en vue à Vienne de l'époque.
Pourquoi 57 variations ? C'est assez monstrueux. Si je ne m'abuse, les variations de cette époque et de son ami Beethoven ne vont pas jusqu'à 57. C'est pour montrer qu'il sait faire mieux.
C'est possible. Écoutez, à cette époque-là, Beethoven écrivait des variations aussi. Donc, il y avait deux séries de variations, les 34, opus 34 et opus 35. Je pense qu'il n'avait pas l'esprit pragmatique du coup, ce monsieur. Il s'est intéressé uniquement à la composition en tant qu'idéal pur. Il était encore plus idéaliste que Beethoven. Et il n'avait jamais l'intention ni de jouer sa propre musique, ni de la faire jouer. En fait, il l'a tout de suite fait publier et puis ranger dans son placard. Donc,
Je pense que c'était
un défi intellectuel, oui. En fait, de savoir est-ce que je peux arriver à continuer, à continuer, à continuer encore. Et c'est vrai qu'un chiffre comme 57, c'est un chiffre qu'on retient. C'est pas un chiffre rond, c'est pas un chiffre qui se divise facilement. C'est pas comme 60 ou 24 ou 36. Donc c'est quelque chose qui titille. C'est ça qui l'intéressait.
Un nombre premier ? C'est un nombre premier, 57 ?
Oui, 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 exactement. Oui.
Vous avez fait des maths, hein, d'ailleurs, oui, oui, oui. Parmi d'autres études, Ivan Illich. Donc c'est pas forcément destiné à être joué en public. Vous-même, vous pourriez ou vous avez joué en concert ?
Alors c'est prévu, c'était prévu, bien sûr, dans plein de festivals. Bon, et c'est prévu encore. Je vais le jouer notamment à Brno, en République tchèque. Ça, c'est pour moi une grande fierté de le jouer en République tchèque. Je pense que l'œuvre n'a jamais été jouée là-bas, en public.
Ni considéré donc, comment, là-bas, d'ailleurs ?
C'est-à-dire que c'est un rapport assez ambigu, un peu comme Chopin en Pologne, par exemple. Ils considèrent que c'est le leur, mais en même temps, la plupart des recherches et des partitions ne sont pas restées en République tchèque. Donc, les musiciens tchèques ont enregistré ces œuvres, bien sûr, mais ce n'est pas non plus considéré comme un grand. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Reicha est plus considéré à l'étranger, notamment en Angleterre ou en Allemagne, qu'en République tchèque.
Elles se trouvent où, les partitions de Reicha ? Et vous-même, vous les avez découvertes dans quelles circonstances ?
Alors, moi, je les ai découvertes à l'université de Berkeley il y a longtemps parce qu'ils ont une bibliothèque musicale incroyable et j'ai lu sur lui.
En Californie, à Berkeley.
En Californie, oui, je savais qu'il existait, on va dire, mais j'en savais pas beaucoup plus. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, cette partition-là, des 57 variations, se trouve sur la librairie musicale en ligne IMSLP, un site très connu des amateurs et des musiciens qui diffusent des partitions ou des scans de partitions gratuitement. Donc, vous avez une édition de cette œuvre de Breitkopf qui date des années 70, qui est mise en œuvre. Et moi, je l'ai téléchargée comme ça. Et pour le reste des partitions, il y en a qui sont publiées uniquement par l'éditeur Symétrie à Lyon et qui ont été redécouvertes il y a 3-4 ans à la Bibliothèque nationale de France. Donc, qui ont été exhumées et publiées désormais, dont des sonates, des variations, des études. Il y a plein de choses, en fait.
Donc là, je suis pianiste, j'écoute France Musique, j'écoute le disque d'Ivan Illich, je veux moi aussi jouer les 57 variations d'Anton Reicha. Je peux les télécharger gratuitement et légalement.
Immédiatement. Et puis, je trouve que c'est génial aussi de suivre avec la partition pour voir les choix de l'interprète. Enfin, parfois, il y a des variations qui plaisent, qui sont plus abordables sur le plan pianistique pour des amateurs. Les gens peuvent télécharger et jouer tout de suite.
On l'a dit, ils étaient amis, Reicha et Beethoven. Est-ce qu'il a souffert de son nombre, d'ailleurs, jusqu'à cet anniversaire? Alors, le pauvre Beethoven aussi a eu son anniversaire un peu compromis l'année dernière, mais...
C'est la vengeance de Reicha. Hein. Non, je pense que oui, il a beaucoup souffert. Il a écrit là-dessus dans son autobiographie. Il y a aussi dans la correspondance de Berlioz, il parle du fait que Reicha parlait de Beethoven et de son succès, notamment avec un peu de dédain. Donc, il y avait de la jalousie, c'est sûr. Après, Reicha n'a rien fait pour se promouvoir. Beethoven, il avait beaucoup d'amis aristocrates, il donnait des concerts, il dirigeait des concerts, il faisait tout pour se faire remarquer, et Reicha c'était le contraire. Alors Reicha n'avait qu'à se bouger un peu aussi. Hein.
quand on écoute les premières œuvres du jeune Beethoven, on entend déjà du Beethoven. Cette musique de Reicha, donc, que vous côtoyez quotidiennement, est-ce qu'elle évolue beaucoup avec le temps? Il y a des ruptures. Moi, je me souviens, dans vos deux premiers albums, il y a des choses qu'on entend, on a l'impression que c'est presque d'une autre époque, un peu parfois, comme ça nous fait ça pour certaines musiques, pour les sonates de Scarlatti, par exemple. On a l'impression que ça pourrait être 50, 100 ans après.
Oui, tout à fait. Bah, c'est très déstabilisant et je pense que ça fait partie des problèmes avec Reicha, c'est qu'on peut difficilement le caser. On aime bien, pour chaque compositeur, avoir une image immédiatement, se dire, lui c'est l'impressionniste, lui c'est un classique, lui c'est un baroque. Avec Reicha, il traverse un peu toutes les époques, donc c'est problématique. Il va, comme je disais tout à l'heure, autant vers le passé que vers l'avenir. Et comment est-ce qu'on peut considérer une musique qui ressemble beaucoup à Schumann si Schumann n'était pas encore né? Est-ce que c'est visionnaire? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'on le joue plutôt comme Schumann ou est-ce qu'on l'interprète avec un esprit classique? Toutes ces questions n'ont pas de réponse facile. Donc c'est intriguant, je dirais, mais je n'ai pas les réponses. Je fais de mon mieux, mais je n'ai pas la réponse.
C'est pas une approche paranormale de ces choses-là.
Non, pas encore.
Quelques autres variations d'Anton Reicha dans cet art de varier opus 57. Troisième volume de Reicha redécouvert, rediscovered avec Ivan Illich, notre invité ce matin. C'est chez Chandos. Autre point commun d'ailleurs avec ce compositeur que vous explorez, que vous réhabilitez même en quelque sorte, c'est un goût pour la philosophie.
Oui, tout à fait. C'est le côté un peu plus large comme démarche, comme centre d'intérêt. Il avait ça en commun avec Beethoven. De toute façon, je crois qu'ils sont tombés tous les deux sous le charme de certains professeurs à l'université de Bonn quand ils avaient une vingtaine d'années. Ils étaient aussi sous le charme des idées de la Révolution française. Je sais qu'il y a un de leurs professeurs qui était très charismatique, on en parlait dans les documents d'époque, qui est parti en Alsace et qui s'est fait exécuter apparemment par la suite pour ses idées révolutionnaires. C'est assez intéressant parce qu'ils ont gardé ça toute leur vie comme un idéal, même si ils sont devenus des compositeurs assez rangés, qui gagnaient leur vie en enseignant ou avec des commandes. Ils avaient ça comme la liberté d'esprit comme idéal. Ça, c'est intéressant.
Ivan Illich, on va revenir un petit peu sur votre parcours. J'en parlais un peu différent, pas comme les autres. Vous êtes né en Californie. Vous êtes d'origine serbe. Vous êtes arrivé faire vos études en France. Vous vivez maintenant à Bordeaux. Quel regard vous avez sur ce parcours peu commun? Pourquoi Bordeaux? Par goût du vin?
Entre autres. C'était un peu un hasard le fait d'atterrir à Bordeaux, mais maintenant que j'y suis, j'ai du mal à imaginer vivre ailleurs, et notamment dans une grande métropole. Je pense que pour les musiciens, c'est une vie assez difficile. Bon, pour enseigner, c'est plus facile de trouver des élèves dans une ville comme Paris, mais autrement, la vie, elle est assez ingrate dans des grandes villes. Après, pendant longtemps, je me demandais pourquoi j'étais pas comme les autres, et c'était pour moi une source d'insécurité ou de manque de confiance. Et maintenant, au contraire, je l'embrasse comme étant le cœur de mon identité. Je pense que c'est à chacun de se trouver son chemin, n'est-ce pas? Mais je trouve que pour moi, personnellement, le fait de jouer une partition qui n'a jamais été enregistrée, par exemple, ça me donne un champ de liberté incroyable. Et c'est là-dedans que je m'éclate le plus. Ça ne me fait pas peur, c'est bien le contraire. Parce que je pense qu'en tant que musicien, on devient vite des éponges et on absorbe tout ce qu'on entend, même sans vouloir le faire. Et si on travaille une œuvre, par exemple, en étant étudiant au conservatoire, une sonate de Beethoven, si on écoute quelques versions, on est imprégné, on ne peut plus les oublier. Et c'est très difficile de trouver sa façon d'interpréter quelque chose. Alors que quand c'est tabla rasa, on a la possibilité de le faire. Donc, pour moi, c'est mon choix. Je ne le vendrai pas forcément aux autres, parce que c'est un choix qui nécessite beaucoup de solitude. Par exemple, le fait, dans les recherches, de décider qu'est-ce qui est qualitatif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut faire peur. Moi, si je me lance dans une intégrale Reicha et après je découvre que la moitié de la musique n'a pas d'intérêt, qu'est-ce que je fais? Enfin, il y a toujours un risque, quand même. Mais je soulignerai aussi le fait que ça n'empêche pas de jouer tout le reste. De toute façon, dans mes concerts, je dirais que je ne suis pas contrainte, mais quand même, par le milieu, je dois jouer Chopin, Mozart, Beethoven, si je continue là de faire. Mais là où je trouve dommage, par exemple, des gens avec des grandes carrières que j'admirais quand j'étais enfant, par exemple Evgeny Kissin, qu'est-ce qui l'empêcherait, lui, d'aller chercher un peu, ne serait-ce qu'un compositeur méconnu, et de faire parler de cette personne? Et parmi tous mes idoles d'enfance, je trouve qu'il y en a presque personne qui le fait. Il y a Pollini qui a fait un peu de Stockhausen. Il a fait Luigi Nono aussi. Mais sinon, parmi les grands, grands, grands artistes, ils vont peu s'aventurer, alors que c'est justement ceux qui ont le moins à perdre. Et ça m'a toujours choqué.
C'est donc à cause de... C'est peut-être les maisons de disques ou les organisateurs de concerts qui ne veulent que du Beethoven?
Alors moi, je trouve que pour quelqu'un qui est en début de carrière ou milieu de carrière, c'est compliqué, parce que pour remplir une salle de 2000, 3000 personnes, effectivement, si vous mettez Reicha au programme, vous aurez du mal, n'est-ce pas? Mais ça, c'est normal. Par contre, quelqu'un qui a déjà tout acquis, qui enregistre pour Deutsche Grammophon depuis 35 ans, qui, de toute façon, il peut jouer ce qu'il veut, les gens vont venir. Bon, en tout cas, c'était le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, peut-être moins. Mais les Pollini, les Argerich, les Kissin, les Christian Zimmermann, je me demande, en fait, j'aimerais en discuter avec eux. Est-ce que c'est un manque de curiosité intellectuelle? Est-ce qu'ils ont toujours fait comme ça? C'est ce qui marche, donc ils continuent? Est-ce qu'ils ont de la pression, effectivement, du milieu? Ça, c'est une bonne question. Mais je me dis que ces personnes, il n'y a rien qui les empêche.
Vous parvenez à faire un récital 100% Reicha en France, les organisateurs de concerts acceptent?
Oui, moi c'est parce que j'ai tellement poussé dans cette démarche que je suis, entre guillemets, connu pour ça, identifié pour ça, donc on s'y attend, c'est pas impossible. Mais après, je ne fais pas que ça, et j'essaye de caser justement peut-être 20% de Reicha dans un récital mélangé. Ça, c'est, on va dire, un juste milieu qui est beaucoup plus logique.
Ivan Illich ne joue pas Canton Reicha, la preuve.
Thank you.
oui, c'est du Chopin, mais il y a quelque chose de bizarre ici. C'est d'après l'étude opus 10 numéro 12 de Frédéric Chopin, mais transformé, revisité, malaxé par Godowski, Ivan Illich.
Oui, pour la main gauche sale. En plus, ça a été transposé pour faciliter sans doute la démarche. Donc c'est en do dièse mineur au lieu de do mineur. C'est assez déstabilisant, la couleur change, c'est beaucoup plus grave dans le clavier. On a évidemment besoin de temps pour se déplacer d'un registre à l'autre, donc ça transforme un peu la musique. Mais on le reconnaît quand même immédiatement.
Un disque paru il y a une dizaine d'années déjà maintenant.
Oui, c'est ça, en 2011,
Chopin, 2012, avec ses études d'une grande difficulté. Depuis un an, vous avez travaillé, vous, justement, beaucoup de nouvelles partitions?
Oui, alors je découvre beaucoup de musique. Ça me donne justement le loisir de le faire. Là, je suis sur un nouveau projet qui serait sans doute pour l'année prochaine. C'est d'un compositeur belge qui s'appelle Joseph Jongen, qui a laissé un legs incroyable de musique, je dirais, impressionniste. Mais lui aussi, comme Recha, j'avais pas réalisé jusqu'à la semaine dernière, il était professeur de contrepoint à Bruxelles. Il a quelques points communs avec Recha. Il était un peu délaissé aussi, même s'il avait du succès de son vivant. Il est délaissé depuis, à part en Belgique un petit peu, où c'est une figure majeure de son époque. Il a composé notamment des préludes pour piano qui sont incroyablement fins et riches. Donc avec peu de notes, c'est un peu comme les préludes de Chopin ou de Debussy, il arrive à créer des univers très divers. Il y a parfois des choses qui font penser à Bach, d'autres qui font penser à Ravel. C'est vraiment comme si Ravel avait continué à écrire plus de musique, parce que c'est un peu ce qui est dommage avec Ravel. Il a fait quoi, 2 heures de musique pour piano, il s'est passé.
Donc Jongen à découvrir prochainement sous les doigts d'Ivan Illich. Cette année-là, comment vous l'avez vécu, vous qui notamment jouez beaucoup à l'étranger, comme un certain nombre de musiciens, et donc peut-être qui n'ont pas le statut d'intermittent, justement parce que vous jouez plus à l'étranger qu'en France?
Oui, effectivement. Donc comment je l'ai vécu, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes enfants. J'ai 2 enfants de 2 et 4 ans, donc ça m'a permis d'avoir une présence incroyable à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai appris beaucoup de nouvelles musiques, j'ai été très partagé entre la volonté de garder encore un contact avec le public à travers les réseaux sociaux et le fait d'observer mes confrères qui voulaient coup par coup publier une nouvelle vidéo tous les jours, et ça m'a un peu repoussé de cette démarche, j'avoue. Donc ce que j'ai fait, je me suis intéressé à d'autres sujets, notamment la finance pour survivre, et aussi
la finance,
parce qu'en fait j'ai réalisé une chose, c'est que avec les compositeurs méconnus, c'est comme les entreprises sous-estimées ou qui sont un peu perdues, parce que si quelqu'un investit par exemple dans la bourse, il va tout de suite penser à des boîtes comme Apple ou Amazon ou autres, mais vous avez des choses qui sont beaucoup moins évaluées, enfin sous-évaluées, et qui vont un jour sans doute prendre la valeur. Évidemment, après coup, j'ai réalisé que c'est exactement ce que je fais avec Recha. C'est exactement la même démarche. C'est gratter, chercher et espérer que ça va prendre de la valeur sans savoir, bien sûr, si ça va être le cas ou pas. Donc ça, c'est, disons que ça m'a aidé à passer cette période. J'ai aussi cofondé un festival. Il y aura un nouveau festival de piano près de Limoges, à Château de la Bourrie, en mois de juin, si tout va bien. Qui s'appelle Festival Illumination d'été. On va faire venir des artistes qui n'ont jamais joué en France. Donc ça m'excite beaucoup, parce qu'il y a notamment un Canadien, Stuart Goodyear, qui improvise des cadences dans Mozart et Beethoven et qui n'a jamais joué en France, et je n'ai pas l'occasion de l'écouter. Donc je vais l'écouter cet été.
Donc vous faites un festival pour pouvoir écouter des artistes. Voilà. Ce sera quand?
Donc c'est 11, 12, 13 juin 2021, Château de la Bourrie, à Solignac, près de Limoges. J'invite tout le monde.
Invitation donc ce matin sur France Musique d'Ivan Illich et le disque Recha, une valeur qui monte. Donc on se quitte avec un autre Recha et cette fugue, vous parliez des fugues étonnantes, en voici une, c'était sur l'un des précédents albums. Merci beaucoup Ivan Illich.
Merci à vous.
Étonnante fugue d'Anton Reicha sous les doigts d'Ivan Illich, notre invité. Ce matin, demain, nous serons avec un poète, André Velter. Et oui, un poète sur France Musique. À la technique ce matin, Xavier Atto, un autre poète de la console, Valentin Bobinet. Et puis également, comme tous les jours, Marion Guillemet, Margot Muller, Lara Castiglione et Florian Henault à la réalisation. Le poète du montage, c'est Yacine Bouzard. Et la réponse à notre jour, on écoutait la musique de Ludovic Lamotte. Là aussi, une découverte, musique de l'haïtien Ludovic Lamotte sous les doigts de Célimène Daudet, qu'on recevra prochainement et qui nous fait redécouvrir la musique de sa mère, qui est d'origine haïtienne. Voilà, je nage un petit peu là. On a rendez-vous avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmier qui ont un très très beau disque à nous faire découvrir.
Mais oui, vous parlez de retrouver, de poésie, un temps retrouvé, un concert retrouvé, la poésie, la littérature, Proust, c'est le projet de Théotime Langlois de Swart et Tanguy de Villancourt. Et
magnifique,
ça ouvre
disque.
Cette émission.
Poète du piano.
Tout le monde est poète.
Oui.
Vous aussi.
Oui, évidemment.
Ah ouais, allez. Et quelle poésie, vous n'imaginez même pas.
C'est 2 heures de poésie pour tous les matins.
À demain les poètes.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.